gentlemen. Goods, do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu. C'est la causerie qui commence, il est 22h et quelques petites brouettes, comme dirait...
Un peu tout le monde.
Un peu tout le monde. Ce soir à la causerie, il y a Fab.
Salut.
Et il y a moi-même à la
technique. Salut Jean-Yves.
Voilà, à la technique.
Et nous avons aussi, personne
c'est
d'autre. Mais on salue les causeuses et causeurs qui ne sont pas là.
C'est ça.
Voilà.
C'est en petit comité ce soir encore, voilà. Ça devrait s'agrandir un peu plus la semaine prochaine et la semaine suivante, n'en parlons même pas, enfin bon.
Et on a une annonce très importante à faire en entrée d'émission.
C'est vrai.
L'émission Astronomie qui était prévue le 19 juin est donc décalée au 26 juin, ça fait pas trop loin, hein, voilà.
C'est ça.
Petit problème technique, petit problème d'agenda, ça peut arriver. Donc voilà, l'émission avec Georges sera le 26 juin et pas le 19 comme prévu. Voilà.
C'est ça. Et ben avant de commencer un peu comme à nos habitudes, c'est-à-dire avec trois sujets, trois petites chroniques, dirons-nous. On va vous rappeler les différents moyens de nous contacter. Le premier, c'est le mail. Vous pouvez nous contacter si c'est pour faire des commentaires sur les émissions, si vous avez envie de passer dans l'émission, si vous voulez prendre contact avec nous. Ça se passe à la causerie canu, tout attaché, @gmail.com. La causerie canu, @gmail.com. Voilà. Et si vous voulez écouter les causeries précédentes parce que vous êtes complètement fan de ce qu'on fait, ça arrive. Enfin, on aimerait sûrement que ça arrive. Et ça se passe sur le blog.
À blogs.radiocanu. Non, si, c'est ça. Blogs au pluriel. radiocanu.org/lacauserie. Ou alors, vous tapez blog Radio Canu La Causerie dans votre moteur de recherche et vous tombez dessus. On est les seuls.
C'est ça.
Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez même télécharger des émissions si ça vous dit sur le blog.
Oui, si le lecteur ne fonctionne pas.
Si le lecteur ne fonctionne pas bien, tout ça. Voilà.
Ou si vous voulez l'écouter quand vous avez envie, vous pouvez télécharger tout ça. Eh ben, on va pas traîner plus que ça. On a fait les rappels, tout ça. Eh ben, Fab, je crois que t'as un petit truc à nous dire. Enfin,
ouais.
Tu veux causer un petit peu du trop-plein d'eau qu'il y aurait dans certaines régions.
Voilà, c'est ça. Du trop-plein d'eau, c'est bien dit. Non, on est à 10 jours de la grande phase d'inondation qu'il y a eu sur la France. Donc on a beaucoup parlé de la région parisienne, il y a eu quelques inondations aussi du côté de la Loire et de plusieurs affluents de la Loire et de la Seine. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir dessus pour dire les inondations c'est mal, parce que je laisse le soin à Manuel Valls d'envoyer des CRS taper sur l'eau, parce que tout ce qui bloque les Français doit être tabassé, hein, donc les inondations aussi. Mais en fait, c'est plus pour revenir sur le fait qu'on n'a pas vraiment eu d'analyse un petit peu en profondeur du pourquoi des inondations. Alors pourquoi je dis qu'on n'a pas eu d'analyse, c'est que vous remarquez que dès qu'il y a un événement qui se produit en France, généralement vous avez 50 experts sur les plateaux de télé qui viennent vous expliquer que ça vient de là, de là, de ça, de ça. Et là, pour les inondations, il y a eu une espèce de silence. On comptait les victimes, on comptait les victimes malheureusement, hein, et on comptait les maisons qui étaient sous l'eau, on donnait les villes qui étaient sous l'eau, tout ça, les hauteurs, vous savez, on vous disait, oulala, ça a bientôt atteint la ceinture du zouave du pont de... Hein. Mais en fait, peu de gens sont venus parler de comment ça arrive une inondation. Parce que ça peut
Il y a peut-être pas assez d'experts en inondation de formés, je ne sais pas.
Bah ouais, ou alors c'est parce qu'on est un peu emmerdé, qu'on veut pas trop en parler, que c'est un sujet dont on a pas trop envie de causer. Alors d'abord, on va rappeler simplement qu'une inondation, c'est quelque chose de naturel qui se produit régulièrement, c'est cyclique, et que face à la montée des eaux, on peut pas faire grand chose, qu'on le veuille ou non. On sait que les rivières, les fleuves, tout ce qui est, tout ce qui est ce qu'on appelle les eaux intérieures, ça peut déborder. Voilà. On le sait, c'est comme ça. Vous pouvez mettre autant de barrages, de digues en dur ou de choses comme ça. Ça finit toujours à un moment ou à un autre par déborder. D'ailleurs, il n'y a pas que les fleuves, il y a aussi la mer, de temps en temps, on sait qu'aujourd'hui, le niveau des eaux monte et que l'eau, on ne l'arrête pas. C'est-à-dire, vous avez beau mettre plein de trucs, de sacs de sable et tout, ou même faire des belles digues, au bout d'un moment, la mer, elle finit par ronger ces digues parce que l'eau, en fait, a la particularité d'être très érosive. Donc, elle peut détruire à peu près tout ce qu'elle touche. C'est-à-dire que le fait de passer le long de quelque chose, elle finit par le ronger, en fait. D'ailleurs, je rappellerai... Oui, vas-y.
Non, mais justement, j'avais vu un reportage sur les côtes bretonnes, en fait. Alors, c'est très large, vous me direz, effectivement. Mais il y avait une région où, justement, ils mesuraient clairement l'avancée de la mer, en fait.
C'est la baie d'Ardienne.
Oui, c'est fort possible que ce soit ça. Et effectivement, on voyait très bien que... tout ce qui était là était en train d'être bouffé.
Elle prend 30 cm par an, donc ça va vite. Voilà. C'est un exemple. Et alors, pour quand même qu'on se rende compte de ce que c'est que l'érosion par l'eau, je vous rappelle par exemple que le Grand Canyon aux États-Unis ou les gorges du Verdon en France ont été creusées par les rivières. C'est-à-dire que c'est la rivière qui s'est enfoncée. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des canyons. Voilà. Donc, on voit que l'eau finit toujours par creuser. Alors, c'est pas pour dire qu'on peut rien faire, c'est pour dire qu'on devrait déjà s'y préparer. Alors déjà, c'est mal barré, parce que le budget qui sert en fait à prévoir les inondations et à préparer les inondations, et donc à préparer de potentielles évacuations, en fait, il a été diminué de 40% ces 4 dernières années. Voilà, parce qu'on a dû estimer que ça servait à rien, a priori. Donc déjà, on voit qu'on avait vachement pris en compte les choses, alors qu'on n'arrête pas de nous parler de la crue centennale de la Seine. Alors la crue centennale, c'est vous avez une chance sur 100 que la crue soit aussi forte que la plus forte des crues. Et on vous dit chaque année, oulala, la Seine monte, on est peut-être dans la crue centennale, vous savez. Mais par contre, on diminue le budget qui permet de prévoir tout ça. Parce que comme on sait qu'on ne peut pas de toute façon empêcher toutes les inondations, il faut mettre en place des plans d'évacuation et des plans d'urbanisme. Dans les zones qu'on sait fortement inondables, c'est un peu couillon de construire des maisons plein pied, vous voyez, par exemple. Juste des exemples comme ça. C'est très très con de mettre un musée le long de la Seine quand on sait qu'il risque d'être inondé.
Ça par contre, j'ai complètement un peu halluciné quand même, c'est de se dire que les réserves du Louvre, elles sont
en zone inondable.
En zone inondable.
Alors c'est pas que les réserves sont en zone inondable qui est étrange, c'est qu'on ait mis les réserves là.
Oui, c'est ça. Oui.
Parce que les Louvres soient en partie inondables, pour une fois qu'on le sait, on évite de mettre des œuvres dans les parties inondables. Sauf que là, on a mis. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut anticiper. Et ça évite d'avoir même y compris des victimes. Et ça, tout ce budget-là, il a été viré. Et puis, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour éviter. Par exemple, on peut creuser des canaux. C'est-à-dire que, alors, je sais qu'après, il y a toujours le combat entre biodiversité, écologie et canaux. Je suis pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais par contre, il y a des moyens de ce qu'on appelle de délester des cours d'eau. C'est-à-dire, en faisant des canaux, comme le canal du Midi, comme des choses comme ça, qui vont aller prendre une partie de l'eau des fleuves et la détourner pour aller ailleurs. Ce qui fait qu'en fait, vous limitez les crues. Toutes les crues qu'on a eues cette année et toutes les villes qui ont été inondées, on s'est bien rendu compte qu'en fait, on a protégé les centres-villes des grandes villes. Parce que c'est ça qu'on fait au final. En fait, en réalité, tout ce qui était anti-cru a été fait pour les grandes villes. Par contre, on n'a pas protégé ce qu'il y avait au-dessus. Vous voyez ? C'est-à-dire que Montargis, par exemple, on s'en foutait un peu que ce soit sous l'eau. Par contre, le centre-ville de Paris, ça faisait un peu chier tout le monde. Vous voyez ? Donc, on a un peu protégé la capitale et puis on déleste l'eau et on bloque l'eau et elle reste en hauteur. Voilà, c'est ça qu'on fait en fait. Donc, c'est pour dire qu'on a un grand plan, c'est faisable, d'une réflexion sur l'inondation, et peut-être faire comme ça s'est fait dans certaines villes des États-Unis qui sont au bord de rivières qui montent d'un seul coup et qui redescendent d'un coup, notamment dans des régions désertiques, parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, dans les régions désertiques, quand l'eau tombe, elle tombe d'un coup, il y a beaucoup d'eau, et ça monte très très, très vite. Et les habitants en avaient marre d'être systématiquement inondés, et ils ont mis des maisons en pilotis au bord des rivières, c'est-à-dire dans les zones qui étaient potentiellement inondables.
Oui, c'est apprendre à vivre avec notre environnement.
On a surélevé les maisons. Mais ça, on n'en parle pas, parce que ça fait chier tout le monde, et puis voilà. Mais en fait, en réalité, C'est une démonstration flagrante qu'on ne prend pas en compte les risques naturels qui peuvent se produire dans la gestion des risques tout court. C'est-à-dire que on va toujours partir du principe qu'on s'en sortira tout le temps.
Mais c'est ça en fait. C'est hyper parlant en fait de la position dans laquelle on se voit en fait.
Ouais.
Enfin nous les humains on est toujours plus fort que tout.
C'est
quoi.
Ça. C'est-à-dire alors qu'on n'est pas plus fort que l'eau.
Bah c'est ça en fait. C'est que face aux éléments on va dire naturels, le feu, l'eau, tout
les
ça.
Tornades, c'est très dur.
On fait pas grand chose en fait. Hein.
C'est qu'en fait on n'a pas une culture du risque. C'est ça qui est en fait vraiment dommageable. C'est-à-dire qu'on n'a pas une culture de la mémoire parce que par exemple il y a un centre européen des crues. Ça, je ne sais plus son nom exact, mais il y a un centre européen qui observe toutes les montées d'eau, descentes des eaux, tout ça. Et eux, ils disaient, mais pourquoi est-ce que vous êtes surpris ? Cet épisode qu'on a là, bah, on en a eu un il y a moins de 80 ans, c'est pas rare, ça se produit régulièrement, et c'est toujours à peu près à la même période, c'est toujours à peu près au mois de mai. Et il y a les météorologues qui disent, avec le réchauffement climatique, et donc le fait qu'on a plus d'eau dans l'atmosphère, parce que je vous rappelle que plus il fait chaud, et contrairement à ce qu'on croit, ça ne se désertifie pas forcément, mais dans nos régions, ça se traduit plutôt par plus d'eau dans l'atmosphère, donc plus de nuages, donc plus de pluie, il est logique que ces événements soient plus forts que dans les années passées. Donc on sait à peu près que ces événements peuvent se produire, on sait qu'ils seront plus forts parce qu'on a de toute façon des précipitations de plus en plus élevées sur des régions comme la France, l'Allemagne, la Croatie, qui sont des pays qui sont vachement surveillés parce que c'est des zones où effectivement il se met à pleuvoir plus qu'avant. Et par contre, on fait rien. Donc c'est un peu ça qui est problématique. Et s'ajoute à ça deux phénomènes, et j'en terminerai là-dessus quand même, qui sont très importants à retenir. D'abord, il y a l'ultra-urbanisation, le fait qu'on fasse des grandes dalles de béton de partout. Bah, quand vous mettez une dalle de béton, l'eau, elle traverse pas, elle passe pas à travers. Et comme elle passe pas à travers, et bah forcément, elle va aller se déverser dans le lit de la rivière d'à côté. Et qu'est-ce qui va se produire ? Bah, la rivière, elle va finir par déborder. Tout ce que le sol absorbait avant, et bah, ça passe directement dans la rivière. Ça, c'est une des premières choses. Donc, l'urbanisation, elle est à repenser clairement. Il faut laisser ce qu'on appelle des zones de digue. Ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire soit des zones creuses où l'eau peut s'accumuler sans danger, soit enlever les dalles de béton pour mettre des jardins, quoi. Ça peut paraître très bête, mais ça marche, en fait.
Quelque chose qui absorbe.
Voilà. Il y a un très bon exemple à apprendre. Je vais faire de la pub pour France 5. Je suis désolé. Il y a une émission sur Plus que vous pouvez revoir. C'est Échappé Belle à Amsterdam. Et d'ailleurs, ils en parlent parce qu'Amsterdam, c'est une ville qui, depuis des années, lutte contre les eaux. Et eux, ils ont compris il y a très, très longtemps que, plus vous bétonnez, plus vous mettez de, et plus, en fait, ça finit par monter très vite. Donc, en fait, ils ont remis en place plein de parcs, plein de lieux d'absorption, comme ils disent, pour éviter qu'il y ait des inondations.
Je crois que concernant les Pays-Bas, je crois que la majorité du pays est sous le niveau de la mer.
Une grosse partie.
Donc effectivement, je pense que quand tu es dans cette situation-là, tu apprends à gérer l'élément naturel qui est autour de toi, sinon tu sais que tu te fais noyer.
Et on pourrait s'inspirer, par exemple, de ce qui est fait, alors que voilà, c'est l'Europe, hein, donc autant aller voir chez nos voisins et puis regarder un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y en a qui ont déjà, depuis des siècles, des habitudes qui est peut-être bon de ramener chez nous. Ils ont par exemple créé des moulins pour faire baisser les niveaux d'eau,
pour gérer les
niveaux d'eau. Voilà, ça paraît très très bête, mais il y a plein de solutions comme ça qui existent. Et la deuxième chose, c'est l'agriculture intensive. On n'y pense pas, mais en fait, le fait de tuer les sols avec plein de pesticides et tout, fait que les sols sont beaucoup moins riches en micro-organismes, et notamment aussi en vers de terre. Or, les vers de terre, ce sont les sauveteurs de l'humanité. Si vous enlevez les vers de terre, il n'y a plus d'humanité. Ça peut paraître.
Et les abeilles.
Non, mais je veux dire pour les sols. Mais les vers de terre, vraiment, ce sont. Il y a vraiment énormément de vers de terre dans le sol. Et ils font vivre le sol. C'est eux qui créent l'humus. C'est eux qui font que le sol est viable et qu'on peut y planter des choses. Mais aussi, ils font plein de canaux. Parce que quand ils creusent, ils font plein de petites
galeries.
Et ces galeries et ces canaux-là, en fait, servaient avant. L'eau rentrait en grande quantité dedans et ça faisait un effet éponge des sols, ce qui évitait que l'eau aille ruisseler dans le lit de la rivière et que la rivière sorte de son lit. Et vous voyez, c'est tout ça, en fait, qui vient s'entrechoquer. Un manque de culture du risque, une façon de faire les villes qui est mal pensée et une agriculture intensive qui est elle aussi très mal pensée, y compris aussi dans la gestion des forêts, où quand vous enlevez toutes les forêts d'un flanc de montagne, l'eau ruisselle beaucoup plus vite que si vous avez des arbres. Et voilà, c'est tout ça en fait qui crée ces phénomènes-là. Et bizarrement, là on n'a pas entendu grand monde pour nous en parler, parce que je crois que ça remettait un peu en cause la COP21, tout ça, là, vous savez, tous les trucs écolos, machin, et qu'en fait on fait que dalle.
Bah oui, et puis toutes les dérogations qu'il peut y avoir. Enfin, parce que ouais. pour moi, logiquement, une zone
inondable ne devrait,
devrait pas être construite. Ouais. Quoi. Ou alors, effectivement, avec des procédés, etc. Ouais. Qui...
Sauf que c'est pas le cas. Hein.
Sauf que c'est pas le cas. Et encore, là aussi, je me demande jusqu'à quel point c'est une incapacité pour les Français, dans... enfin,
ouais,
de manière globale.
Pas qu'en France, hein, mais
à remettre en question ces pratiques, quoi.
Ouais. Et surtout à se dire, ça peut arriver, oui. Donc c'est un risque potentiel haut et pas simplement hypothétique, donc on doit le prendre en compte. Et on ne le prend pas en compte parce qu'on fait d'abord passer l'immobilier, d'abord on dit oui, mais il faut faire vite. Je tiens juste à rappeler que il y a des villes où il y a des fois jusqu'à 50% de la ville qui sont en zone inondable. Par contre, il y a une réalité, c'est que dans ces zones-là, on ne loge généralement que les pauvres. Voilà.
C'est étrange ça.
Donc on voit que même là, il y a une idée de ségrégation sociale derrière et qui est à creuser. Mmh. Voilà.
Ok. Eh ben, on fait quoi ?
Eh ben, on s'écoute un peu de musique.
Ouais. Et en plus, je crois que c'est un truc un peu
un peu inédit.
Un peu inédit.
C'est classe.
Allez, écoutez ça.
Different people to be.
Et vous êtes bien dans la causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. Allez, vous les avez reconnus, c'est obligé. Vous savez qu'on vient de vous passer un titre inédit des Kings Queer, hein? Voilà. Eh ben oui, c'était un petit inédit s'appelle Season of the Witch. Alors, c'est fait avec Alice Beauté, hein, pour ceux qui auront reconnu le doigté à la guitare. Et c'est une reprise de Donovan. Voilà.
C'est ça. Et pour c'est... rappeler, les Kings nous l'avaient annoncé, ouais. Dans l'émission qu'on avait fait avec eux.
Voilà. Et du coup, voilà. On vous le diffuse ce soir pour que ceux de la boucle soient bouclés.
Bah ouais.
Et que les ponts soient très dressés, tressés, je sais pas comment on peut dire.
Tout à fait.
C'est très étrange, ma phrase. Voilà. Et Jean-Yves, justement, tu voulais nous parler de l'inverse des Kings Queer, tu voulais nous parler de gens qui avaient plein de thunes.
Effectivement, à moins que les Kings nous cachent des choses, mais je ne crois pas qu'ils et elles soient assujettis à l'ISF. Ne sait-on jamais. Et ben ouais, je vais vous parler en fait d'un article qui est que Canard Enchaîné en fait a sorti. C'était le mercredi 8 juin. Et en fait, c'était une liste. Enfin, c'est un article qui comportait une liste de 50 contribuables dont l'impôt sur la fortune, l'ISF, bénéficie d'une importante réduction en raison d'un mécanisme de plafonnement. Alors l'article, il était sur la une du Canard. C'était écrit. Un classement secret de Bercy, ce qui est vrai, et la liste des plus grands miraculés de l'ISF.
J'adore les titres du Canard.
Et donc, je vais quand même vous en citer un petit peu, enfin, ce qui était contenu un peu dans cet article. Donc en fait, le document, il listait en quatre colonnes plusieurs des principales fortunes de France et la réduction sur l'ISF dont il et elle ont bénéficié. Alors c'était une liste dressée de façon confidentielle quand même, hein, par la Direction Générale des Finances Publiques.
Hein. Elle a été demandée par qui?
Ben, je ne sais pas.
Hein, c'est pas. Elle existe en tout cas.
En tout cas, elle existe. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Donc c'était tout ça, hein, c'est des ristournes légales en fait, grâce à l'habilité des conseillers financiers des milliardaires, l'addition des réductions représente un manque à gagner pour l'État de 190 millions. D'euros en 2015. En fait, c'est-à-dire que l'État ramasse 21 millions d'ISF payés par ses 50 contribuables, alors qu'en fait, le montant initial est de 220 millions. Voilà, donc c'est un petit 10% quand même, juste. Et les plus grands noms n'ont par exemple pas payé d'impôt sur la fortune, hein, grâce au système de plafonnement.
Genre Bettencourt.
Ouais. Liliane Bettencourt, ouais, paye 0 euro d'impôt sur la fortune.
Ah ouais.
Oui. Parce que c'est pas facile d'être riche. Ou alors c'est très facile, je ne sais pas. Il y a aussi la veuve d'Édouard Leclerc, la mère de Michel Édouard. Hein,
l'ami des pauvres.
L'ami des pauvres, le grand libérateur. Et encore Léone Meyer, qui est l'héritière du fondateur des Galeries Lafayette du BHV. D'autres, comme Bernard Arnault, voient le montant de leurs impôts réduit de 4, enfin divisé par 4. Oh. C'est-à-dire que plutôt que de payer 8 millions d'euros, ils en payent que deux. Voilà. Et donc le Canard est enchaîné, il explique que les riches contribuables utilisent des techniques de camouflage sur leurs revenus pour échapper à un ISF trop élevé. Selon le journal, il suffit aux conseillers financiers de minorer les revenus imposables de leurs clients, et si cela ne suffit pas, quelques gros malins contractent des emprunts pour assurer l'ordinaire et en apparence ne gagnent presque rien.
Ouais, c'est le fameux système de vivre à crédit pour ces personnes très riches,
oui,
qui permet de laisser croire qu'en fait on n'a pas de revenus.
C'est
un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que la banque, elle prend ce que vous gagnez et elle vous fait un crédit pour vivre.
Et alors pourquoi,
c'est magnifique, hein.
Alors pourquoi tout ça, ils payent presque rien? C'est parce qu'en fait le total formé, c'est tout ça, hein, cette ristourne, elle est autour de le total formé par l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le revenu. Ne peut pas excéder 75% des revenus de l'année précédente. Le seuil de 75%, lui, il a été fixé par le Conseil constitutionnel, qui juge confiscatoire,
attention, hein,
entendez bien le mot, hein, un pourcentage supérieur.
Et c'est la fameuse réforme que Hollande a mis en place en arrivant au pouvoir.
Alors c'est tout le truc.
Qui permet, soi-disant, pour être plus juste vis-à-vis... de l'ISF, c'est ça,
c'est ça.
Qui permettait, alors, soi-disant, de récupérer des sous.
C'est ouais. ça. Alors lui, le Canard, en fait, enfin les journalistes du Canard disent juste que la liste, en fait, c'est surtout le résultat burlesque d'une législation bricolée et rafistolée depuis des années. Et donc effectivement, le plafonnement. Alors vraiment au début, cher auditeur et chère auditrice, j'avais vraiment l'envie de t'expliquer comment fonctionne ce plafonnement ouais. et cette réduction de l'ISF.
En fait, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que l'ISF ne prend pas en compte les biens que vous avez, mais que vos revenus.
Oui.
D'accord. Donc, plus vous placez d'argent à droite à gauche, moins vous avez de revenus.
C'est ça le truc. En
Donc
fait.
Voilà. Et ce qui fait que l'impôt sur le revenu, il s'arrange en fait pour que l'impôt sur le revenu représente 75% de leurs revenus, pas de leurs biens. Hein, je le répète. Or, on leur prête de l'argent sur leurs biens. C'est le fameux vivre à crédit. Mmh. Vous voyez, ils sont jamais perdants. Hein. Et en fait, ça permet comme ça de dire, oula, mais je paye déjà 75% de mes revenus en impôt sur le revenu, donc on ne paye pas l'ISF. Et on ne tient pas compte des biens. C'est merveilleux. Hein.
C'est ça.
C'est beau.
Donc, si vous voulez vraiment tout saisir, moi ouais, j'ai vraiment trouvé un doc où il y avait tout le calcul ouais, ouais. de fait avec les exemples. Cherchez-y vraiment, parce que ça reste intéressant quand même de voir toute cette construction mathématique, et au-delà de les mathématiques, hein, c'est de la gestion.
Oui, c'est une ça. Construction mathématique.
Pardon. Et donc voilà, enfin, allez-y, n'hésitez pas, c'est pas moi qui vous expliquerai tout ça non. ce soir. Fab l'a quand même fait plutôt bien. Voilà. Et donc tout ça s'est passé, l'article du Canard, c'était donc le 8 juin. Le 8 juin sort également un communiqué de presse de Michel Sapin, qui est donc ministre de son État, hein, des Finances et des Comptes Publics, et de Christian Eckert, qui lui est secrétaire d'État chargé du budget auprès de Michel Sapin. Et que dit ce courrier, enfin ce communiqué de presse, il dit que Michel Sapin, ministre de son État, tout ça, Christian Eckert, secrétaire d'État, y font part de leur indignation après la publication par la presse d'informations couvertes par le secret fiscal. Il s'agit là d'un fait d'une très grande gravité. Je lis hein, tout ce qui a été édité par le ministère. La divulgation d'informations fiscales nominatives par des personnes qui en sont dépositaires à titre professionnel constitue un délit sanctionné par le code pénal. Le ministre des Finances et des Comptes Publics et secrétaire d'État chargé ont aussitôt demandé à l'inspection générale des finances de diligenter une enquête dans les meilleurs délais. Le directeur général des finances publiques a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de Paris. Et ça termine en disant que Sapin et Eckert suivront attentivement ces procédures et en tireront, le moment venu, toutes les conséquences.
Alors, c'est marrant parce que quand il s'agit de créer des croisements de fichiers pour faire chier les gens qui touchent le RSA, là, le secret bancaire fiscal, ça leur pose pas trop de problèmes. Mais alors, par contre, si vous touchez aux riches, il vous faut un communiqué de presse, quand même.
Ah bah oui, c'est attention, hein, faut pas toucher aux copains.
Non, mais c'est un truc de fou.
Mais oui.
Parce que c'est quand même le même Sapin qui proposait à une époque de croiser les fichiers de la CAF, de la Sécu et de Bercy pour vérifier, coulala, que personne n'était en train de frauder, bon, pensez non, pour les 420 euros par mois. Hein. Voilà. Et là, par contre, ça le choquait pas trop qu'on s'assoie sur le secret.
Ah bah la lutte des classes est une réalité voilà. de tous les jours.
Ouais,
hein, je veux dire.
C'est chouette. C'est chouette.
Et donc, au même moment, le jeudi 9, donc le lendemain, a été adoptée la loi anticorruption Sapin 2.
Le okay. retour.
Le retour. Dans laquelle on parle des lanceurs d'alerte. Mmh. Alors, je vais continuer un petit peu. Et donc, le vendredi 10, hein, le surlendemain, directement, il y a des ONG qui ont dit hey, coucou les parlementaires et le gouvernement. En fait, est-ce que vous pourriez quand même revoir votre définition du lanceur d'alerte ? Parce que, bon, votre définition à vous, elle ne nous correspond pas. Enfin, elle ne nous satisfait pas.
Ouais.
Et je vais vous la lire, cette définition qui a été adoptée.
Dans la loi Sapin
2. Dans la première lecture de la loi Sapin 2. Ça devient compliqué.
Mais parce qu'elle n'est pas adoptée, la loi, elle est en cours de.
Elle est en lecture.
En lecture, ouais.
Et donc, la définition adoptée, c'est un lanceur d'alerte est une personne qui révèle, dans l'intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique, ou témoigne de tels agissements. Il exerce son droit d'alerte sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui. L'alerte ne saurait révéler quelques éléments que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. Donc,
ah oui.
vous remarquez, il y a un truc.
Il n'y a pas le fiscal.
Pas le fiscal, non. Mais
même la fin est drôle quand même, parce que le secret médical appliqué, ça veut dire par exemple que si vous lancez l'alerte sur un produit au hasard, le glyphosate, qui potentiellement pourrait donner des cancers, bah attention, parce que ça va être compliqué, parce que vous êtes un peu à cheval entre les deux. Et là, il n'y a pas le fiscal en plus.
Mais c'est tout ça en fait que pointent un peu ces assos aussi, c'est que là, c'est très très flou quand même ce que vous nous dites.
Enfin, c'est surtout tellement flou qu'en fait, il y a le lanceur d'alerte, ça n'existe pas en France.
C'est
quoi.
Ça en fait. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à la suite, en tout cas autour de cette loi Sapin 2, il y a plusieurs députés, hein, dont aussi le rapporteur et ainsi que le ministre Michel Sapin.
Ouais.
Écoutez bien, se sont toutefois exprimés pour réaffirmer leur volonté de protéger tous les lanceurs d'alerte, et ce, en améliorant la définition lors du processus législatif en cours. Je cite Michel Sapin, hein. La volonté du gouvernement, c'est que toutes ces situations, et en particulier les situations qui concernent les lanceurs d'alerte, qui, dans le domaine financier ou dans le domaine fiscal, auraient lancé une alerte, que ces cas-là soient couverts.
Bah, sauf qu'il ne l'a pas mis dans sa loi au départ.
Bah, en fait, c'est un peu ma question. C'est-à-dire, est-ce que Michel Sapin, peut-être qu'il a un dédoublement de personnalité,
hein, ça doit être ça, en fait.
Et il n'y a aucune stigmatisation là-dessus. Par contre, effectivement, il faudrait peut-être qu'on en parle un petit peu.
C'est un peu compliqué, du coup.
Bah,
c'est le mec, il pond une loi qui dit l'inverse de ce qu'il prône
c'est
derrière. Donc voilà.
Et qu'en même temps, la plainte contre X a été déposée.
Ah oui, c'est-à-dire que Bercy... Donc le ministère des Finances a porté plainte contre X par rapport à la liste.
Bah oui.
Bah alors donc du coup les journalistes potentiellement ils peuvent être entraînés en taule.
Bah c'est ça. Enfin
c'est
en garde
à vue,
que,
moi, pardon.
Et puis ça va sur est-ce que la personne qui a permis que ce document soit révélé par le canard enchaîné.
Bah, c'est un lanceur d'alerte, non?
Bah c'est la question en fait. Je pense que c'est la vraie question. Est-ce que là maintenant dans ce cas-là précis, ça n'en sera pas un.
D'accord.
Parce que je ne sais pas.
Parce qu'ils sont pro aux riches.
Parce que c'est
mal.
Pas bien. C'est ça. Donc en fait, ils attendent que les lanceurs d'alerte balancent les pauvres qui veulent rien en fait, mais parce que c'est les pauvres le problème. Donc voilà. Donc moi après, c'était ça aussi. Et je me suis demandé aussi si justement les journalistes ne risquaient pas eux aussi d'avoir des emmerdes.
Bah oui. Alors une plainte contre X, ça veut dire qu'on va chercher les sources.
Bah c'est qu'on va chercher les sources à un moment donné. Et donc, bah justement, en cogitant à ça, je me suis dit, bah tiens. Logiquement, moi j'avais le souvenir que les journalistes justement avaient une protection des sources qui ne pouvaient pas être amenées à les révéler, etc.
Ça n'avait pas été écorné sous Sarkozy, ça.
Alors, c'est-à-dire, je vais vous citer quand même justement ce texte qui a été, c'est une loi qui a été votée le 4 janvier 2010, hein, donc c'était, je crois, Rachida Dati sous Sarko, et qui érige en grand principe. Un grand principe, le secret des sources des journalistes est protégé dans leur mission d'information du public. Sa disposition capitale est désormais inscrite dans la loi du 29 juillet 1881, imaginée sous la Troisième République, et qui reste le socle des lois sur la presse en France.
Ouais.
Ok, jusque-là, c'est pas mal. Mais en fait, il y a une autre disposition relative aussitôt aux garanties démocratiques, parce que ça, ils disent, il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que... si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie, et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
Alors si ça, c'est pas ce qu'on appelle une autoroute pour faire ce qu'on veut.
C'est ça. C'est-à-dire que les journalistes vont devoir exprimer nous éclairer si ce qu'ils ont fait est strictement nécessaire et proportionné au but légitime poursuivi. Enfin, je veux dire, je trouve ça vraiment dingue, quoi.
Ouais,
et
dingue.
Que... Enfin, ce document, finalement, en plus, ils avaient barré la plus grande majorité des gens, mis à part leur prénom. Les seules personnes qui étaient réellement apparentes, c'était Bernard Arnault, c'était Madame Bettencourt, etc. Donc, même là, je veux dire, le journal, il n'a pas lâché le nom de tous ces gens à la meute de pauvres, assoiffés de sang, de riches, je ne sais pas.
Mais en fait, pour moi, ce que ça me fait penser, c'est que comme il y a encore des journaux indépendants, comme l'est le Canard Enchaîné, on va le rappeler quand même. Canard Enchaîné est un journal indépendant qui appartient à ses journalistes d'ailleurs. Donc du coup, comme on n'arrive pas à tuer tous les journaux indépendants, on va essayer de tuer leurs sources. comme ça, ça évitera qu'ils sortent des trucs.
C'est ça.
C'est un peu ça l'idée qui est derrière.
Ah bah c'est... Oui. C'est ça, et puis c'est toujours très drôle entre ce que les politiques peuvent annoncer, hein, on va sauver les lanceurs d'alerte,
tu parles.
Et puis en fait, non, parce que les lanceurs d'alerte vont faire chier la bourgeoisie quand même majoritairement, hein, et puis les entreprises, et puis toutes ces choses-là, tous ces trucs qui sont tenus au secret pour la plus grande majorité, donc je trouvais que c'était intéressant cette schizophrénie du pouvoir entre on veut protéger les lanceurs d'alerte et qu'en même temps dès qu'il y a un truc qui y ressemble en France, et ben on porte plainte contre X pour justement les balancer et que ça ne se reproduise plus.
Voilà. C'est un système assez étrange.
C'est assez étrange, on peut.
Mais on s'étonnera pas qu'au classement de Reporters sans frontières, la France descende chaque année pour ce qui est de la liberté de la presse, parce que c'est avec ce genre de choses que justement on entrave la liberté de la presse et qu'on entrave le droit d'information des citoyens et citoyennes, comme on disait, des gens en général, et que voilà. Et il faut soutenir la presse indépendante. Mmh. C'est hyper important.
Oui, et en France, il y a encore très peu de canards qui sont indépendants, quoi. Enfin, de journaux, de médias qui sont indépendants, qui n'appartiennent pas à des gros patrons du CAC 40. Et ça, c'est plutôt inquiétant quand même. Et ben, je vous propose qu'on se mette de la musique.
Titre un peu rare en plus.
Ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer. C'est un vinyle, ça devrait fonctionner. Si ça fonctionne pas, on vous dit à dans une seconde. Avec le titre Dormi, réveillé, qui est un titre inédit, qui est issu de La Main Gauche. C'est un album, principalement en vinyle, je crois, qu'il est sorti uniquement en vinyle. Et c'est six titres des Mansfield qui sont repris ou mixés et il y a cet inédit avec.
Et aussi un superbe remix de par Ron qui est magnifique.
Sur ouais, mais je,
on le passera un jour.
Je sais pas pourquoi, je pense que vous en entendrez encore de cet album-là. Ouais. Voilà. Fab, je crois que tu as un dernier sujet, et puis on est dans les temps, c'est formidable
oui,
tout ça.
C'est bien, bravo à nous. Alors, non, moi j'ai un sujet qui concerne les migrants. Immigrantes, voilà. Et c'est, en fait, c'est quelque chose qu'on invisibilise un peu beaucoup, je trouve, et c'est un peu dommage parce que, alors, très clairement, on parle des morts dans la mer Méditerranée, ça c'est horrible, ça ne devrait pas arriver. On parle des frontières fermées, et ça c'est pareil, ça ne devrait pas exister. Les frontières ne devraient d'ailleurs même pas exister. Mais on oublie un petit peu certains aspects. Alors, le premier aspect qu'on oublie, c'est malheureusement l'ONU je crois que c'est l'UNICEF qui s'occupe des enfants qui nous le rappelle, c'est qu'il y a 10 000 enfants qui ont disparu. Alors ils n'ont pas disparu en mer, hein, ils ne sont pas morts, voilà, mais ils ont disparu des camps de migrants, des zones de rétention de migrants, et à peu près personne ne sait où ils se trouvent. Il y a une grande suspicion que ces enfants, une partie ait été adoptée de force, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui cherchaient des enfants adoptés, et une autre grande suspicion dans le rapport qui a été remis, que des enfants sont rentrés dans des réseaux de pédophilie, voilà, et servent aujourd'hui de chair à des salopards. Et voilà, donc ça c'est déjà un truc qui glace le sang. Et il y avait autour de ce rapport des gens qui disaient oui, oh, c'est dramatique, c'est pas totalement vrai, pourquoi tout de suite mettre l'idée de la prostitution infantile et tout. Et en fait, comme un petit peu pour répondre à ça, et malheureusement je dirais, elle n'est pas qu'infantile, la prostitution, elle est à peu près généralisée malheureusement pour beaucoup de migrants et migrantes, et notamment en Grèce, mais aussi en Allemagne, où les gens se retrouvent en fait sans rien et n'ont pas tellement d'autre choix finalement que de vendre leur corps pour survivre. Voilà. Alors c'est la radio publique grecque qui d'abord a sorti un rapport qui a été fait par plusieurs ONG en Grèce et qui des ONG qui voyaient en fait le nombre de personnes atteintes de maladies d'IST augmenter dans les centres d'accueil des migrants et qui soignaient les migrants et qui ne comprenaient pas trop la corrélation qu'il pouvait y avoir pourquoi en fait ces IST se augmentaient comme ça, surtout que bon il y avait des ce qu'on appelle des IST endémiques, c'est-à-dire des maladies sexuellement transmissibles qui étaient assez peu présentes par exemple en Syrie pour les migrants syriens et qui se retrouvaient à dévaster des camps complets, enfin à pas dévaster mais à se transmettre dans les camps. Donc ils ont réfléchi, ils ont enquêté et puis en fait ils ont découvert que énormément de migrantes et de migrants vendaient leur corps pour survivre. Et pourquoi ils vendaient leur corps? Pour une raison simple, c'est qu'en fait la plupart doivent des thunes à une petite mafia, celle des passeurs, et que la petite mafia en fait elle les tient un petit peu par le collier comme on dit, et que elle leur laisse pas trop le choix, c'est-à-dire que ils demandent à être payés toutes les semaines et à recevoir toutes les semaines une somme fixe sur le crédit compris ces gens pour traverser. Voilà, parce qu'il faut savoir que maintenant les passeurs, ils ont trouvé un super truc, c'est qu'au lieu de demander la somme complète au départ, ils demandent une partie de la somme, puis ils font crédit du reste.
Ouais, mais comme ça, tu gardes les gens sous ta coupe.
Exactement. Comme le faisait la mafia napolitaine ou comme le faisait la mafia à New York, c'est exactement le même principe. Lorsqu'il y a eu les grandes migrations d'Italiens à New York, c'était exactement le même principe qui était employé par la mafia new-yorkaise, c'est-à-dire qu'en fait, ils payaient le billet de traversée, mais vous leur deviez des années de travail derrière. L'armée fait ça aussi d'ailleurs, mais on sait pas ce truc. Mais voilà. Bref, c'est pour dire que voilà, que en fait, ces gens se retrouvent démunis sans rien. Donc il y a deux cas dont je vais parler, un qui est qui donc ne fait pas partie de ce qui s'est passé comme sur la radio publique grecque, mais qui était plutôt relayé par les mouvements anarchiste grec. Voilà, c'est le cas d'une jeune migrante dont ils ont changé le nom, dont je ne donnerai pas le prénom parce que je ne l'ai plus en tête, mais c'est de toute façon pas son prénom et on s'en fout, qui expliquait en fait qu'elle, quand elle est arrivée, en fait, la première chose qu'elle a subie, c'est un viol de masse, c'est-à-dire qu'on l'a donnée à 10 personnes. Elle s'est fait violer par 10 personnes et qu'ensuite, son Mac, qui est en fait finalement le passeur en même temps, lui a dit maintenant que de toute façon, tu es plus pure, parce que tu n'es plus vierge et que de toute façon tout le monde sait que t'es une pute, en gros, maintenant tu vas bosser pour moi. Et en fait, elle se retrouve le long du périphérique grec, dans les zones un peu désertées de la partie des Jeux Olympiques, qui sert en fait de lieu en fait de passe, parce que y a personne, parce que ces zones ont servi que pour les JO, il n'y a plus personne qui vit là-bas. Notamment les anciens les immeubles qui avaient été faits pour les athlètes, vous savez, le parc olympique, ça s'appelle, je crois. Et en fait, elle expliquait en fait que elle fait entre 15 et 30 passes par jour. Voilà. Et qu'en moyenne, en fait, elle fait payer la passe entre 1,50€ et 3€. Parce que comme la Grèce, il y a une grosse chute économique. Et ben, elle disait au départ, elle avait essayé de mettre le prix à 20-25€. Et puis très vite, on lui a demandé de baisser. Et puis il fallait qu'elle survive. Et puis il fallait qu'elle sorte cette somme auprès de son salopard de Mac et de passeur. Et du coup, elle s'est retrouvée coincée là, en fait. Et voilà. Et elle explique en fait que ben elle est pas toute seule. Qu'elle estime elle estime qu'elles sont au moins 150 à 200 à être dans cette situation-là, ne que sur son secteur d'activité. Elle précise bien ça, c'est-à-dire que c'est pas 150-200 migrants.
Oui, surtout sur toute la Grèce ou surtout Athènes ou surtout.
Voilà. C'est sur un tout petit bout de quartier d'Athènes, donc c'est rien. C'est vraiment... Et que ses clients sont majoritairement des Grecs, mais aussi des touristes. Voilà, qui trouve là-bas une prostitution pas chère, low cost. Comme partout. Et alors elle explique que c'est un peu compliqué parce qu'en fait en Grèce, vous savez peut-être pas, mais la prostitution est réglementée. C'est-à-dire qu'elle est autorisée dans certains lieux, un peu comme en Allemagne, hein, c'est un peu la même législation. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que elle est accusée de concurrence déloyale envers des travailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, elle a essayé de ce qu'elle expliquait, elle a essayé de porter plainte, enfin d'essayer de se sortir de ça. Et en fait, on lui a dit, ah ben non, parce que normalement, t'aurais dû te faire enregistrer au bureau, machin, et puis t'aurais dû faire ça. Et en fait, tu es comme le polonais, vous savez, le plombier polonais qui venait voler le truc. Donc, on lui a gentiment dit, soit tu continues, mais tu fermes ta gueule et tu te restes tranquille et on te voit pas. Soit on t'expulse. Voilà.
C'est cool. Dans la notion de choix, c'est vachement intéressant.
Voilà. Donc, on l'a renvoyé en gros dans les bras de son Mac et des passeurs. Et puis, il y a une deuxième prostitution qui, elle, est encore plus cachée, on va dire ça comme ça. C'est la prostitution masculine. Parce qu'en fait, elle s'est énormément répandue parce que, les gens n'avaient pas le choix. D'abord, il faut savoir que la plupart des migrants qui arrivent en Grèce n'ont aucun soutien, aucune aide financière de la part du gouvernement grec, parce que de toute façon, le gouvernement grec, il n'a plus un copec.
Et que
l'Europe n'aide pas, il faut être très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solidarité vis-à-vis des migrants, hein, pour être très carré. Et en fait, ils doivent se recourir à des rencontres sexuelles tarifées avec des hommes plus âgés. Voilà, c'est ce qui marche bien. Donc la plupart d'entre eux, en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. C'est un peu la même situation que la personne dont je parlais avant. Ils ont des dettes auprès des passeurs. La mafia locale dans les camps, elle tient très bien les camps. Je vous rappelle juste comme ça que c'est le chiffre qui est donné dans l'article. Alors, je ne l'ai pas vérifié, mais je pense qu'il est vrai parce qu'il vient quand même d'un article du Washington Post qui n'est pas connu pour raconter de la merde. On estime qu'il y a 1 à 3 migrants à tuer par jour à l'arme blanche dans les camps en Grèce, donc c'est assez énorme, et que généralement ces meurtres sont maquillés en noyade, ce qui permet de les faire passer dans les noyers des gens qui ne sont pas arrivés.
Et ce serait des meurtres de l'extrême droite ou c'est interne?
Non,
c'est la gestion.
C'est plus une gestion mafieuse des camps qu'autre chose en fait. Hein, c'est ce qu'ils expliquent bien. Ça reposerait plutôt là-dessus que sur des gens d'extrême droite qui viendraient. Ouais. Voilà. Ça a pu arriver. C'est ce qu'ils expliquaient d'ailleurs dans l'article. Ça a pu se produire. Par contre, il y a quand même aussi, il ne faut pas le nier, une mafia qui s'est mise en place dans les camps. D'ailleurs, Médecins sans frontières le dénonce très bien en rappelant les conditions. Je vous invite à aller sur leur site. Voilà. Donc la radio publique grecque elle a recueilli le témoignage d'un jeune réfugiés afghans qu'ils ont appelé Abdallah, c'est un nom d'emprunt total, lui il séjourne dans un complexe sportif construit à Athènes pour les Jeux Olympiques de 2004 et qui est abandonné, c'est-à-dire qu'il est en dehors des camps légaux, hein, il est en squat comme on dirait. Voilà. Et donc en fait, quand il est arrivé, il avait même pas 20 centimes en poche, c'est ce qu'il raconte. Et donc il vient de traverser, il a failli mourir sur la traversée. Il explique bien. Il est très très mal. Il a rien dans les poches. Et là, on lui dit, il va falloir que tu nous donnes 20€ par semaine pour rester où tu es. Voilà. Voilà ce que le deal qu'on lui dit. Et 20€, c'est énorme. Hein,
je vous le dis tout de suite. Oui.
Donc, c'est d'autres migrants qui vont lui dire, tu sais, en fait, il y a un truc très bien qui marche bien. C'est que tu peux te faire de l'argent en proposant des relations sexuelles tarifées à des hommes plus âgés. Voilà. C'est ce qu'on lui dit. On lui dit, mais c'est ce qui ici rapporte le plus vite et le mieux dans cette situation-là. Donc, en Grèce, je vous rappelle, la prostitution est légale. Donc, personne ne regarde vraiment ce qui se passe autour de ce trafic-là. Voilà. Et ben, il va aller dans les parcs fréquentés majoritairement par des homosexuels et des homosexuels âgés. Il va commencer à vendre son corps. Les jeunes qui se prostituent ont généralement moins de 25 ans. C'est la moyenne qui a été vue par les associations. Et certains d'entre eux semblent même être des adolescents, voire des adolescents très très jeunes, c'est-à-dire qui auraient autour de 14 ans. Et c'est voilà, ils vendent leur corps et surtout ils vendent la prestation qu'ils pensaient pouvoir vendre au départ à entre 10 et 20 euros. Et assez vite ils se rendent compte que bah, qu'en fait ça marche pas. Que le client il insiste, qu'il négocie, et c'est ce que dit le jeune homme, en moyenne je vends pour 2 euros. Putain. Voilà. Et avec ce qu'il gagne, il faut qu'il bouffe et il faut qu'il paye ses passeurs.
Et qu'il se sente bien dans tout ça.
Et qu'il faudrait qu'il se sente bien. Alors, il y a un autre truc qui vient se mettre par-dessus, c'est que pour les tenir, les passeurs, en fait, ça s'arrange généralement pour avoir des informations sur ces personnes et notamment sur leurs familles qui sont restées au pays ou qui sont dans d'autres camps. Et on leur dit, tu sais, si tu dis quelque chose, si tu ne me payes pas, je vais dire à toute ta famille que tu es homosexuel.
C'est trop bien.
Et comme ils vivent dans des cultures où c'est très mal accepté, et ben ça leur met une épée de Damoclès en plus au-dessus de la tête. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est tout ce trafic-là qu'on invisibilise, dont on ne veut pas parler. C'était à peu près la première fois que sur la radio publique grecque, on parlait de cette problématique-là. La radio a reçu des tonnes de lettres qui disaient « c'est inadmissible, vous faites ça parce que vous voulez vous opposer à la prostitution ». C'était pas du tout le sujet. Donc, vous voyez, il y a une espèce de truc un peu schizophrénique qui se met en place.
Ouais,
et voilà. Et en Allemagne, c'est le Zeitung, je crois que c'est comme ça, le nom du journal.
Il y en a plusieurs.
Ouais, hein, c'est machin Zeitung, c'est perdu son nom.
Berliner Zeitung.
Ouais, Berliner, celui de Berlin, c'est ça? Donc,
ouais,
Berliner Zeitung. Qui a publié un article, en fait, où il a rencontré, enfin, les journalistes ont rencontré aussi des migrants dans ce qu'ils appellent les illégaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encadrés par les Landes allemands. Et on retrouve à peu près la même situation. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ils retrouvaient un lien avec les réseaux de prostitution officiels allemands, qui en fait font un peu de la prostitution low cost. Voilà.
Ah bah, ils s'adaptent au marché, hein.
Ouais, mais je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est pas. J'ai pas de solution, là, comme ça, toute faite. J'ai pas de truc. Par contre, je trouve que c'est bien de pas l'invisibiliser, de pas faire comme si ça n'existait pas et de penser que les migrants dans les camps, ils se marrent et que tout va bien, quoi. Voilà. J'avais juste. C'était juste pour essayer de donner cette vision-là et rappeler quand même qu'il y a une ONG qui a quand même expliqué quelque chose qui peut glacer un peu le sang, c'est que dans les pays réglementaristes, en fait, les migrants finissent par être vus non pas comme des victimes, mais comme des concurrents, c'est ce que racontait la jeune grecque tout à l'heure, et que du coup, ça affaiblit leur prise en charge dans le cadre de cette prostitution illégale, et que du coup, il faudrait s'interroger, et c'est une Allemande qui disait ça, c'est une ONG allemande, il faudrait s'interroger dans notre rapport, en fait, à ce qui peut être après réellement de l'abus. Vous voyez, c'était le truc, voilà, c'était sa conclusion à elle. Voilà, je trouve que c'est intéressant que ça soulève des questions de fond. Et pas que juste dire c'est pas bien. Voilà.
Ah, effectivement, que c'est une réalité là encore une fois. Mmh. On va pas faire genre qu'elle n'existe pas.
Exactement.
Eh ben.
Musique.
Allez, allons-y. Est-ce que ça va fonctionner?
Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur au chaud. Thank you. quelques décades. Je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade. Et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé. Un peu moins effrayé. Écrire pour ne pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire, dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli. Écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche. L'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite, ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler. Je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret. Sans honte et sans regret. Ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas.
C'est bien sûr Radio Canu dans La Causerie au 102.2 sur radiocanu.org, comme tous les dimanches entre 22 et 23 heures. Et c'était l'immense Anne Sylvestre qui interprétait Écrire pour ne pas mourir. Voilà, alors bah tiens, ça me donne l'occasion de vous dire d'aller réécouter l'émission qui a été faite par Intrinsèque, qui est tous les jeudis à 17h, si je ne me trompe pas, sur Radio Canu, qui a fait une émission spéciale Anne Sylvestre. Et ce jeudi, ce sera la deuxième partie de cette émission. C'est vraiment une très 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 bonne émission. Voilà, si vous voulez découvrir Anne Sylvestre, c'est un très bon moyen.
On est rarement déçus lorsqu'on écoute Intrinsèque.
Ah ça c'est sûr. Mais là en plus, je trouve qu'ils ont vraiment, enfin, ils nous plongent dans l'univers d'Anne Sylvestre.
Oui, parce qu'en plus c'est mélangé avec et ce que j'ai bien aimé, c'est que justement ils mettaient pas d'ordre chronologique, non. Et ils mélangeaient les titres aussi avec des interviews, des passages d'interviews, ouais, d'Anne Sylvestre. Je trouve que c'était hyper intéressant. Vraiment.
Donc voilà. Foutu. Peut-être on mettra le lien, s'ils ont déjà mis le podcast, on mettra peut-être le lien, ouais, sur notre blog.
Et il y en a une, ouais, deuxième donc cette semaine normalement.
Oui, cette semaine jeudi à 17h.
C'est ça. Voilà. Et ben on termine rapidos avec des brèves et on sera presque à l'heure. C'est pas mal ça.
Ouais.
Alors moi je voulais déjà commencer par rappeler ce qu'on a déjà dit en début d'émission, c'est que la causerie avec Georges qui était prévue pour dimanche prochain,
donc la causerie cosmique astronomique,
c'est ça, astronomique, et ben elle est déplacée non pas au 19, donc la semaine prochaine, mais au 26 juin, c'est-à-dire, ouais, le dimanche suivant. Voilà. Ensuite, je crois que tu as une news pour demain.
Oui, ben c'est toujours la permanence juridique d'aide aux sans-papiers et à leurs aidants, amis, je sais pas comment on pourrait dire. Et c'est à la Lutine, tout à 18h30, c'est 91 rue Montesquieu, donc comme tous les lundis soirs.
C'est ça. Et puis, ben, rappel de la manif qu'il y a mardi. Il y en, ouais, a à Paris, mais il y en a aussi une à Lyon. Alors, et dans plein d'autres endroits en, ouais, France.
Si
aussi.
Vous pouvez monter à Paris, montez à Paris. Ça démarre, je crois, à 13h, ouais, à la place, ça, de la Bastille. Bastination, je crois, si ma mémoire est bonne. Et si vous ne pouvez pas monter à Paris, ce qui est le cas de la majorité des gens quand même, et ben, restez à Lyon, mais venez au Brotteau. Voilà, gare des Brotteaux à partir de 11h et c'est en direction de Jean Masset. Voilà, ça devrait être une manif. On espère qu'on sera plein parce que bah, c'est un bon moyen de montrer qu'on est encore là et que même s'il y a l'euro, bon, on n'a pas baissé les bras.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. Enfin bref. Non, c'est l'euro. J'allais partir dans un truc,
non,
mais je vois l'heure. Non,
pas l'euro.
On va continuer dans notre petit programme militant. Ouais. T'avais quelque chose d'autre ?
Oui, alors comme on a bien besoin de marcher en ce moment et qu'il ne fait pas trop mauvais, bah, samedi 18 à 15h à Saint-Marcelin en Isère, il y a un grand rassemblement contre le Center Park de Roibon et donc contre Pierre et Vacances, hein, je vous rappelle. Alors c'est d'autant plus important d'essayer d'y être si vous pouvez, parce que je vous rappelle que monsieur Vauquier, nouveau président de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, a fait voter une aide pour installer ce Center Park de 4,5 millions
d'euros.
Ah ouais, d'euros, ouais.
Ouais.
D'argent public.
Ouais, mais il faut aider les projets innovateurs.
Ouais, c'est innovateur.
Innovant,
ça.
Pardon.
C'est innovant, il n'y a pas de problème.
Bah, une bulle de 29 degrés dans un truc, enfin,
ouais, non, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc, c'est donc à Saint-Marcelin en Isère. Et voilà, il y aura donc ces rassemblements et ça dure normalement jusqu'à 19h.
Okay.
Donc il devrait y avoir des prises de parole et plusieurs ateliers proposés. Voilà.
Ok, et moi je voulais faire un petit rappel par rapport à l'expo de Yoko Ono.
Yo.
Qui est jusqu'au 10 juillet,
oui.
C'est-à-dire dans un petit peu moins d'un mois. Donc, bon, moi j'y étais pas encore, donc je me suis dit, tiens, je vais dire aussi aux auditeurs et auditrices, si vous voulez y aller, pensez-y rapidement parce qu'il reste moins d'un mois. Donc voilà.
C'est au musée d'art contemporain,
ouais, c'est au MAC
de Lyon. Je vais juste en profiter pour rappeler que les gens qui sont chômeurs ou sans emploi, oui, ou RSA, je vous invite à prendre la carte musée qui fait 6 musées lyonnais. Elle est gratuite, oui, pour vous et elle permet de rentrer dans les 6 musées lyonnais. Et puis pour les autres, cette carte ne fait que 20€, ce qui n'est pas une petite somme, mais c'est 20€, mais ça vous donne accès à 6 musées à Lyon en illimité, et dont le musée d'art contemporain, le musée Cadagne, le musée des Beaux-Arts et 3 autres que j'ai oubliés. Mais voilà, mais c'est pas mal d'avoir ça dans sa poche.
Dis, tu bosses pour Gérard ou quoi ?
Non, mais...
Non, mais je plaisante, mais l'accès à la culture, franchement, voilà. Ça, c'est hyper important.
Oui.
Enfin, dans une grande ville comme ça, de pouvoir accéder à des musées, etc.,
moi profitons-en. Moi j'ai plein de
utilisons-les ces choses.
J'ai plein de critiques sur la culture officielle machin et tout, mais je trouve que de ne pas être exclu de la culture, c'est important aussi.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'est ça qui.
Ah mais oui, oui.
C'est vrai.
Quand on peut critiquer, c'est au moins quand on y était et qu'on peut.
Exactement.
C'est toujours pareil.
Sinon, comment influer sur la culture si on ne la voit pas ?
C'est ça. Effectivement.
On n'entend pas ou voilà.
Effectivement. Bon ben voilà, je crois que 23h02, on est bien dans les,
ouais,
temps, on a terminé.
Oui.
On vous souhaite une bonne soirée, une bonne,
ouais,
nuit. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mmh, pour la causerie.
Une bonne semaine de lutte.
Ouais, toujours et encore.
Et de manif. C'est et de ça. Parapluie du coup.
Aussi.
Ou de kawaii, ce que vous préférez.
Ouais, voilà. Vous avez le droit de porter ce que vous voulez.
Mais en tout cas, il va pleuvoir mardi, je vous le dis. Hein, donc.
Donc voilà, et ben on va se quitter avec encore un truc qu'on a déjà goûté la semaine dernière. Non, c'est Philastine. La semaine dernière, je vous avais passé The Cleaner.
Mm-hmm.
Et ben là, je vais vous passer le premier tome de cette création, mm-hmm, de 4 clips, de 4 titres, etc.
En 4 parties. Ouais.
En 4 parties. Là, la deuxième partie que je vous ai passée la semaine dernière, The Cleaner. Et là, je vous passe la première partie qui a été créée et c'est The Minor.
The Minor. Ouais.
The Minor. Yeah, excusez-moi. C'est donc le mineur. Et si vous avez l'occasion, allez sur les réseaux sociaux, enfin sur les, ouais, réseaux de vidéos. Vous pouvez voir, les clips sont vraiment très intéressants. Ils sont rentrés illégalement dans une mine, etc. pour pouvoir faire le clip. Il y a vraiment une réelle démarche de réflexion sur la place de nos corps, sur la place du salariat, sur la place de l'exploitation des hommes, et, enfin des êtres humains. Et donc voilà, allez-y, courez-y, c'est Philastine donc avec The Minor. Et puis on vous souhaite la bonne nuit, la bonne soirée.
Et bonne soirée.
Et à bientôt.
À la semaine prochaine.
Des bisous, comme on dit.
Voilà, comme on dit, bisous.
Des bisous, ciao. Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu sur le 102.2. Nous venons d'écouter les L avec Blockhaus, puis Ceux qui marchent debout, la 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 la.